Vous avez reconnu le récit de ce qu'on appelle le péché originel, Adam et Ève qui mangent la pomme, dit-on, et qui sont chassés du paradis. Et ce péché originel a de nombreuses interprétations possibles. On va vous en faire un petit catalogue avec Florence, et évidemment, on va commencer par les pires. Enfin, les pires, celles qui nous plaisent le moins, mais maintenant, vous avez le choix. La première, la plus épouvantable et malheureusement qui a été la plus importante, ça a été l'idée que ce péché originel était un péché qui a été fait Adam autrefois et qui aurait donné une sorte de culpabilité qui entacherait toute l'humanité jusqu'à aujourd'hui. Et certains ont prêché cela au Moyen-Âge en particulier en disant « Vous êtes coupable de vos péchés et en plus, dès que vous êtes né, vous êtes déjà coupable d'une faute qui était celle d'Adam. » Et c'est pour ça d'ailleurs que autrefois, on baptisait les enfants, le baptême c'était le signe du pardon. Alors on baptisait les bébés. Mon bébé, il n'a pas fait beaucoup de péchés, pauvre lapin. Mais si, parce que déjà né, il est déjà coupable du péché originel. Et donc il faut le laver de la faute du péché originel. Alors si c'est ça le sens du baptême des bébés, ne faites pas baptiser vos enfants. Parce que le petit enfant qui naît n'est coupable de rien. Et je suis coupable de mes péchés, c'est déjà pas mal, mais sûrement pas du péché d'un très lointain ancêtre qui pourrait s'appeler Adam ou quoi que ce soit. Donc cette histoire de culpabilité héréditaire, de péché qui se transmet, dont on serait coupable, etc., je n'en veux pas. Nous sommes déjà assez coupables comme ça de nos fautes pour qu'on nous en rajoute une qui ne viendrait pas de nous. Mais bon, comme j'ai l'art d'essayer de récupérer les restes, il y a quand même, je peux l'interpréter d'une manière. C'est de dire que s'il y a quelque chose dont nous héritons, ce n'est pas de la faute forcément de nos parents, mais c'est d'une sorte d'imperfection congénitale. Nous naissons tous imparfaits, et ça c'est vrai. Et tout ce qu'il y a dans le monde est entaché du péché originel. Moi ça me touche quand j'achète quelque chose de tout neuf. Immédiatement, au bout de quelques minutes, je découvre que cette chose qui me plaisait tant, elle a un petit défaut là qui m'énerve. Eh bien c'est le péché originel. Tout ce qu'il y a sur terre a un petit défaut ou un gros défaut. Nous naissons tous imparfaits, et il faut le savoir. Et le savoir, c'est en fait plutôt déculpabilisant, puisque c'est comme ça, eh bien on fait avec. Et puis l'important, c'est pas que tout soit parfait sur terre, parce que ça ne le sera jamais. C'est il y a une chose qui est parfaite, et la seule, c'est la grâce de Dieu.
Alors, autre interprétation. Parce que la question qu'on avait posée, c'est à qui la faute ? Évidemment, vous le savez bien, la faute, c'est celle de la femme. Et voilà, ça m'ennuie un peu, mais vous allez voir, je vais essayer de rattraper tout ça au cours de nos échanges. Et puis en même temps, va se poser le problème de la nature de la faute. Et une des interprétations les plus classiques, que d'ailleurs je n'ai jamais vraiment comprise, c'est que la nature serait d'ordre de la sexualité, comme si s'était passé des choses cachées entre Adam et Ève. Alors si vous lisez bien le texte, il n'y a rien de tout ça. Il y a bien un homme, une femme, un serpent. Il y a évidemment une histoire de connaissance, et vous savez qu'au sens biblique, la connaissance de l'autre, c'est aussi l'acte de faire l'amour, donc peut-être qu'il y a de cela. Mais en tout cas, je ne vois pas cela dans ce texte. Mais tout de même, pourquoi y a-t-il eu ce genre d'interprétation ? D'ailleurs, c'est assez tardif. C'est parce que c'est vrai, dans ce monde de l'Orient ancien, eh bien oui, dans tous les mythes, on voit ce type d'initiation l'acte de faire l'amour, une initiation. Mais cette initiation est plutôt positive. Elle permet à l'homme de sortir de son animalité. Parce que la question essentielle au milieu de tous ces mythes, c'est qu'est-ce que l'homme ? Alors que dans notre histoire, on pourrait plus dire que finalement, l'homme va quitter le monde divin, en quelque sorte. Qu'est-ce que l'homme ? C'est ni Dieu, ni un animal. Et la bonne nouvelle, c'est que le fait d'aimer l'autre nous permet de sortir de notre animalité. Alors oui, il y a certainement quelque chose qui se passe entre cet homme et cette femme, mais c'est plutôt quelque chose de positif, si on veut entendre bien et remettre dans le contexte. Donc, en effet, la question tout de même reste posée. Qu'est-ce qu'être un être humain et qu'est-ce que notre humanité ?
Et ça, c'est aussi une des manières avec lesquelles certains ont essayé de récupérer le texte en mettant de côté cette histoire de culpabilité ou de péché. Et d'ailleurs, on remarquait que le mot « péché » ne se trouve pas dans le texte. À aucun moment on ne dit que c'est un péché. Le mot péché apparaît pour la première fois dans la Bible avec l'histoire de Caïn et Abel. Et donc, pour récupérer ce texte, certains ont eu une idée astucieuse, mais à mon avis, inutile. Cette idée astucieuse, c'est de dire, en fait, cette histoire d'Adam et Ève qui prennent connaissance du bien et du mal, ça ressemble au passage de l'état animal à l'état humain. Parce que l'animal n'a pas conscience du bien et du mal. L'animal, il fait ce qu'il fait comme ça, par instinct. Et l'homme, justement, a connaissance du bien et du mal. Il est capable de discernement. Et c'est ça qui change tout. Autrement dit, il y a un moment donné dans l'histoire de l'humanité où tout à coup, il y a l'animal qui a pris conscience du bien et du mal. Et le passage de l'animal à l'humain, ça a été un événement considérable. Et certains disent que ce récit raconte le passage de l'animal à l'humain. Bon, pourquoi pas ? Si c'est pas, sans doute pas faux, mais alors du coup ce texte n'a absolument aucun intérêt. On sait très bien qu'un jour un animal est devenu humain, et alors, bon voilà, moi je m'en fiche un peu, ça ne me concerne pas. Mais ce qui est compliqué, c'est à ce moment-là, pourquoi Dieu freinerait la question ? Pourquoi Dieu empêcherait-il Adam et Ève de devenir humains, en quelque sorte, de devenir conscients et réfléchis ? Et ces gens-là disent, ben, c'est parce qu'en fait Dieu sait que devenir un être humain, c'est aussi très dangereux. Parce que dès qu'on a la capacité de faire le bien ou de faire le mal, on peut du coup faire du mal ou se faire du mal, et que ça c'est dangereux, et que Dieu se dit ce serait mieux d'attendre le plus possible que l'humain ait acquis une certaine sagesse avant de lui donner cette liberté d'être capable de choisir entre le bien et le mal. De même que ceux qui sont parents, comme moi ou comme Florence, ben, avec nos enfants adolescents, on freine, on leur dit « Non, non, sors pas trop tard le soir ben, », ou on évite de leur donner trop de responsabilités en se disant qu'ils sont peut-être pas prêts. Ben, Dieu serait comme un parent qui n'a pas confiance dans ses enfants. Bon, ben, écoutez, voilà, c'est ce que disent certains. Moi, j'aime pas ça, mais maintenant, chacun fait ce qu'il veut avec ses textes.
Alors, mais pour continuer un peu dans la même veine, on peut dire, il a été beaucoup dit que ce récit était d'ordre étiologique. Alors, même si vous n'écoutez pas du tout ce qu'on a raconté, si vous n'êtes pas d'accord, certains auront appris un mot, étiologique, c'est-à-dire, enfin les médecins savent ce que ça veut dire, mais les autres, ça veut dire qu'on essaye d'expliquer quelque chose qui existe aujourd'hui, dont on ne connaît pas l'origine. Alors c'est vrai, pourquoi on marche debout, ça on le sait à peu près, il y a l'évolution, mais pourquoi les serpents rampent ? On ne sait pas trop. Et puis pourquoi faut-il accoucher dans la douleur ? Eh bien ça, on ne sait pas non plus. Et pourquoi c'est difficile de cultiver ? Ça non plus, finalement, on n'en connaît pas l'origine. Alors, alors là, on nous donne une origine mythique. Bon, bah, c'est très bien, mais ça n'a pas grand intérêt en réalité. Parce qu'aujourd'hui, on n'est plus trop dans un monde où on explique les choses par les mythes. On est tout à fait dans un monde où on essaye d'expliquer les choses par la science. Et peut-être que ce n'est pas plus mal. Mais finalement, c'est tout de même un peu intéressant, cette histoire de bien et de mal, et surtout cette histoire de douleur. Ça m'a interpellée, parce que je me suis dit, si cette histoire d'arbre de la connaissance du bien et des mal n'était pas que d'ordre moral, parce qu'on l'a toujours interprété comme ça, savoir ce qu'il faut faire de bien, ce qu'il faut faire de mal, mais si c'était simplement question physique, qu'est-ce qui nous fait mal ? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Avant, ils ne savaient pas ce qui leur faisait mal. Eh bien, désormais, maintenant qu'ils ont mangé de cet arbre, ils vont savoir ce qui fait mal. Et ce qui fait mal, oui, c'est d'accoucher. Ce qui fait mal, parfois, c'est de vivre. Ça, Dieu le dit. Mais il y a une bonne nouvelle, tout de même. C'est qu'on a peut-être connaissance de la souffrance, de la douleur, mais on a aussi conscience, maintenant, de ce qui fait du bien. Ce qui fait du bien, c'est un rayon de soleil sur notre peau pour nous réchauffer. Ce qui fait du bien, c'est la pluie quand on est dans l'aridité. Ce qui fait du bien, c'est le rire des enfants. C'est même les enfants qui courent dans le temple. On est heureux qu'ils soient comme ça. Voilà ce qui nous fait du bien. La connaissance du bien va avec la connaissance du mal. Et là encore, on est au cœur de la question de ce qui fait notre humanité.
Et puis ma proposition à moi, pour finir ma partie, c'est que je pense qu'il ne s'agit pas d'un péché historique, originel de quelqu'un d'autrefois qui s'appellerait Adam ou Ève, mais on dit qu'il est originel, c'est-à-dire que c'est le péché que nous faisons tous, parce que nous sommes tous Adam et Ève, qui est à l'origine de tout péché et de toutes les souffrances. C'est-à-dire quelle est la faute la plus fondamentale qui menace notre existence et que nous devons éviter. Cette faute, elle est bien expliquée par le serpent qui le tente, et il dit, il leur dit, si vous faites ça, vous serez comme Dieu. C'est-à-dire que la faute principale, c'est de vouloir se prendre pour Dieu, c'est-à-dire de se croire comme quelque chose de très important et de se mettre soi-même au centre du monde. Ça, c'est extrêmement grave, parce que ça génère beaucoup de souffrance, tu l'as expliqué tout à l'heure, et ces punitions de Dieu ne sont pas des punitions, ce sont des conséquences. Si vous vous prenez pour Dieu, vous aurez beaucoup de souffrance dans votre vie. Pourquoi ? Parce que si je me prends pour Dieu, tout ce qui m'arrive autour de moi n'est qu'une agression. Et tous mes échecs, tous mes manquements, tout ce que je rate, c'est épouvantable. Alors que si je sais que je ne suis pas grand-chose, eh ben rien n'est grave, en quelque sorte. Et puis cet arbre, ce n'est pas l'arbre de savoir ce qui est bien et ce qui est mal, parce que ça, c'est très bien d'être capable de discerner le bien du mal. Il faudrait dire autrement. C'est l'arbre de prétendre, décider soi-même ce qui est bien et ce qui est mal. Et le danger, c'est ça. C'est quand je dis, je déclare bien ce qui me plaît, et je déclare mal, universellement, ce qui me déplaît. C'est ce que fait d'ailleurs Ève quand elle goûte le fruit, elle dit, mais tiens, je trouve ça super bon. Eh bien, je déclare que c'est bien. Et ça, c'est dangereux. C'est-à-dire qu'en fait, le bien et le mal, c'est pas ce qui me plaît, moi. Le bien et le mal, c'est pas par rapport à moi, c'est par rapport aux autres, et par rapport à l'universel, c'est-à-dire par rapport à Dieu. Et donc, voilà le gros danger, c'est de prétendre que tous devraient se rapporter pour moi. Ce qui est bien, c'est ce qui fait du bien aux autres, et ce qui est mal, c'est ce qui fait du mal aux autres et à l'universel. Alors ça, si on ne fait pas ça, tout devient un problème. Si la femme qui en accouche ne pense qu'à elle, elle va dire « l'accouchement est la pire des douleurs ». Mais si elle ne pense pas à elle, mais à l'enfant qu'elle met au monde, elle dit « c'est la plus grande des joies ». Voilà. C'est vrai ça, Florence. Moi, je n'ai pas essayé, mais...
Tout à fait. Tout à fait.
Pour le travail, j'ai une idée aussi. Si vous allez rendre service pour aider quelqu'un dans la difficulté, si vous pensez à la bonne œuvre que vous avez faite, vous vous coucherez heureux en disant « c'est formidable, j'ai aidé une vieille dame à déménager, quelle joie de l'avoir aidée, elle ne pouvait pas le faire toute seule ». Et si vous ne pensez qu'à vous, le soir vous direz « quelle horreur, j'ai mal au dos, j'ai transpiré, je suis fatigué, j'ai des ampoules ». Eh bien, vous travaillez dans la douleur. Et donc, c'est ça le péché originel. Alors, le contrepoison du péché originel, c'est donc de s'oublier soi-même pour donner aux autres et de penser que, non pas à soi-même, mais de penser à ce que l'on fait, de penser non pas à sa peine et à ses soucis, mais à tout ce que l'on donne aux autres et à Dieu. Et alors, la vie, c'est le paradis.
Bien. Alors, je vais... Tout ça, ce n'est pas du tout dans l'opposition. Je vais rajouter un peu. Je vais revenir donc à qui la faute. Alors, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais quand même, ils sont pas très courageux. Hein. L'homme dit « c'est pas moi, c'est la femme ». La femme dit « c'est pas moi, c'est le serpent ». Enfin bon, on a l'impression d'être dans une classe de maternelle. « C'est pas moi, c'est l'autre ». C'est très facile, ça. Bon, il n'y a pas qu'à la maternelle. Si on écoute les discours politiques, c'est un peu ça aussi. « C'est pas moi, c'est l'autre ». C'est toujours la faute de l'autre. Donc... Et si finalement, ce n'était pas une des fautes, un des péchés, ne pas reconnaître sa propre faute. Mais pour comprendre cela, je veux dire qu'il faut remonter juste un peu en avant. C'est la faute, je vais revenir, entre le dialogue entre la femme et le serpent. Alors certes, c'est certainement le péché, c'est de se prendre pour Dieu. Mais le péché, l'autre, mais c'est un peu de la même nature, c'est de se méprendre sur Dieu. C'est-à-dire de croire que Dieu est un Dieu jaloux, violent, qui veut garder ses prérogatives. Et si finalement il a mis une limite, il a dit « tu ne prendras pas de ce fruit », c'est parce que dans la tête du serpent ou de la femme, il voit Dieu qui ne veut pas qu'on connaisse le bien et le mal, parce que alors il ne pourrait plus nous dominer. Comme si cette connaissance était une connaissance de domination. Eh bien non, si Dieu a mis une limite, c'est pour notre bien. Parce que dans la vie, il faut des limites. Et le Dieu en lequel ils sont présents, eh bien c'est un Dieu d'amour. Et certainement, il ne faut pas aller se planquer quand il arrive dans le jardin et qu'il dit « Où êtes-vous ? » Au contraire, il faut assumer sa faute et dire « Ben oui, tu nous avais dit de ne pas manger, mais nous, on a mangé quand même, on a voulu savoir, et maintenant, on sait. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ça ?» Voilà. C'est cela, à mon avis, la faute première, c'est de se tromper sur Dieu. Et lorsqu'on se trompe sur Dieu, eh bien, toutes les relations avec Dieu, avec les hommes, sont compliquées, sont parfois difficiles. Mais je ne voudrais pas vous laisser sur cette note un peu pessimiste, parce que dans la Bible, il y a plein de lieux, il y a plein d'endroits où les histoires sont revisitées. Et l'histoire d'un homme et d'une femme dans un jardin, il y en a une merveilleuse, dans le Cantique des Cantiques. Et là, au contraire, tout se passe bien. Ils sont dans l'harmonie, ils sont dans la quête l'un de l'autre. Ça se passe tellement bien que les rabbins, puis l'Église, ont fait de cette histoire l'image de l'histoire entre Dieu et l'humanité. Mais il y a un verset merveilleux au cœur de cette histoire, avec lequel je voudrais terminer, qui nous dit l'amour, parce qu'il s'agit bien d'amour, y compris dans ce dialogue entre Dieu et l'homme, le regard bienveillant de Dieu sur l'homme, que l'homme ne comprend pas. L'amour est fort comme la mort, parce qu'en effet, avec cette histoire, l'homme découvre aussi sa finitude. Alors, dans ce jardin, entre un homme et une femme, on découvre que l'amour est fort comme la mort, et on va même découvrir dans un autre jardin, plus tard, avec le Christ, que l'amour est plus fort que la mort. Amen.
Voilà, vous pourrez discuter entre vous en famille, plein de tout un bouquet d'interprétations possibles de ce beau texte, et en tout cas, comme Adam est venu, Paul dit comme Adam est venu dans le monde en emmenant le péché, il y a un homme qui est venu et qui a apporté la libération de tout péché, toute la joie, et nous fait rentrer dans le paradis, c'est Jésus-Christ. Et nous chantons, je vous invite à vous lever, remplis d'amour et de reconnaissance, les trois premières strophes.